Attends, tu prends le micro.
Non,
si.
Excuse-moi.
Bonsoir à tous. Vous avez pu remarquer cette chaise, normalement rouge jusqu'en bas, avec ce panneau. Donc je vais vous donner quelques explications. C'est une initiative qui a été prise par l'initiative mondiale, qui a été prise par l'ONU. Il y a déjà quelques années, qui est pratiquée dans beaucoup de pays, mais c'est la première fois que c'est fait en France. Donc, on a l'autorisation de pouvoir le faire en France. Donc ça s'inscrit dans la quinzaine qui est consacrée aux violences faites aux femmes dans notre pays. Avec la journée phare, c'était samedi dernier. Vous avez dû en entendre parler parce que les médias ont beaucoup relayé. Et pendant toute cette quinzaine, il y a beaucoup de clips à la télé ou à la radio, on entend. Donc voilà, sont concernées donc les violences physiques, mais aussi les violences psychiques, les violences psychologiques. Donc prions pour que bien la parole de toutes ces femmes concernées soit libérée, parce que c'est en mettant des mots, M-O-T sur les mots, M-A-U-X, que la parole se libère et que Dieu peut nous libérer. Et je peux en témoigner, malheureusement, mais heureusement, parce que le Seigneur nous libère. Donc il y a plusieurs associations, qui, notamment celle-ci, que vous avez dans le bas, là. Hein, vous pouvez aller consulter le site, parce que vous pouvez faire vous-même ce geste dans tous les lieux publics, dans un cinéma par exemple, avec l'autorisation, bien sûr vous demandez avant, mais c'est connu, c'est relayé dans les lieux publics, et vous pouvez mettre une chaise avec un chiffon rouge, quelque chose de rouge, et puis vous mettez ce panneau, voilà. Et ça sensibilise quand même beaucoup la population, hein. Voilà, c'est bon. Beaucoup d'associations peuvent vous aider. Hein, il y en a maintenant beaucoup. Il y a toujours le 3919, mais il y a beaucoup d'associations qui prennent le relais. Et puis aussi dans les églises, et particulièrement ici, vous avez des sœurs qui sont formées pour vous écouter. Donc c'est le début de la libération, l'écoute. Voilà, bonne soirée à toutes.
Ce soir, le thème c'est libre de servir Dieu. Eh bien, c'est la dernière fois on avait comme thème servir Dieu, tout simplement. Donc, on avait mis un peu les bases de qu'est-ce que c'est de servir Dieu et pourquoi. Donc, je vais juste donner quelques points de rappel. Donc, un don spirituel, parce que pour servir Dieu, on a des dons. Dieu nous donne des dons, et en moins un. Donc, la définition, c'est, si tu peux tout mettre, ça serait bien. Un don spirituel est une capacité particulière que le Saint-Esprit donne selon la grâce de Dieu à chaque membre du corps de Christ, et qui doit être utilisé pour l'édification de l'Église. Donc ça, c'est la définition. Et ensuite, dans 1 Pierre 4, 10, on avait lu, « Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres, en en bon entendant de la grâce de Dieu. Et pour finir, ça n'est pas bon. C'est pas grave. Voilà, donc on a abordé le thème des dons. Que c'est Dieu qui nous donne les dons, on en a toutes en moi un, et les dons sont distribués à chacune, puisqu'on est femme ce soir, à chacune, et ça fonctionne vraiment comme un corps, c'est-à-dire qu'on a besoin les unes des autres dans tous nos dons pour être vraiment efficace dans l'Église. Donc, on a toutes en moi un don et ça peut être très très différent les unes des autres. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Tous les dons sont importants, précieux et vraiment ça contribue à ce que l'Église grandisse et soit bénie de Dieu avec les dons que lui nous donne. Alors. Libérer pour servir, donc c'est le thème ce soir, on va un petit peu plus loin. Donc la dernière fois c'était les dons, d'où ça vient, pourquoi, est-ce que c'est important, etc. Alors si vous voulez écouter, c'est sur le site, je pense. Et donc ce soir c'est libérer pour servir. Pourquoi j'ai pris ce thème-là? Eh bien, parce que en fait on ne se sent pas forcément toujours libre de servir. Il y a un tas de choses qui nous empêchent de servir. D'abord, la première chose, c'est que nous ne connaissons pas les dons que nous avons. Des fois, on n'a aucune idée des dons que nous avons, pour un tas de raisons. Hein. Et ça, c'est la première chose. Après, c'est on a une mauvaise image de soi. On se regarde avec des yeux méprisants par rapport à nous-mêmes. On se dit qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas valable, etc. Donc, on a une très mauvaise image de nous. Donc, on se dit qu'on ne peut pas servir Dieu puisque je ne sais pas parler ou je ne sais pas faire ci ou ça. Donc, mauvaise image de soi. Alors, état de péché, donc je mets ça comme ça, c'est-à-dire qu'on peut être, à un moment donné, vivre dans le péché, c'est-à-dire que nous vivons en sachant contre les principes que Dieu nous donne. Alors, dans ces cas-là, bien sûr, le remède, c'est la repentance. La repentance qui veut dire faire demi-tour, c'est-à-dire changer et plus pécher, arrêter et pas tourner en rond, pas recommencer, ça s'appelle tourner en rond. Mais demi-tour, repentance et pour arrêter le péché dans notre vie pour pouvoir servir. Après, il peut avoir la maladie, il peut avoir l'épreuve, le deuil, le temps, on n'a pas assez de temps. Il peut avoir vraiment beaucoup de raisons à chacune pour qu'on ne se sent pas libre, qu'on ne se sent pas capable de servir Dieu. Donc, ce soir, on va aborder cela. Alors, dans un premier temps, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est cette belle photo de famille. Alors, ça doit être un été où tout le monde était réuni, les grands-parents, les enfants, etc. Donc, une très très belle photo. Pourquoi j'ai mis cette photo? Eh bien, parce que ce qui nous empêche de servir, nos complexes, nos problèmes, nos difficultés, souvent ça commence eh bien dans la famille. Parce que c'est là où on grandit, c'est là où on a les premières expériences de découvrir nous-mêmes, découvrir les autres, etc. Donc cette belle photo de famille, on va la laisser pour regarder une famille dans la Bible. Alors cette famille dans la Bible, cette histoire, c'est une de mes préférées. Et cette histoire, moi, vraiment, je suis vraiment reconnaissant à Dieu qu'il l'a mis dans la Bible parce que en réalité, c'est une famille terriblement dysfonctionnelle. Comme beaucoup de familles, si vous connaissez une famille parfaite, vous me le direz, hein? Mais la Bible est très réaliste et la Bible n'enlève pas les choses qui sont difficiles à voir, à considérer, mais elle laisse tous les dysfonctionnements, on peut voir tout ce qui peut se passer dans une famille. Alors, une famille en particulier, donc je vais demander à Laetitia de nous lire cette histoire. C'est un petit peu long, on va lire pas tout le chapitre, mais une bonne partie, parce qu'on a besoin d'avoir toutes les données de cette histoire pour ensuite la commenter. Laetitia, tu vas bien?
Bah, je vais parler comme ça.
Jacob s'établit au pays de Canaan où son père avait séjourné. Voici l'histoire de la famille de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, gardait les moutons et les chèvres avec ses frères. Il avait passé son enfance avec les fils de Bilha et de Zilpa, femmes de son père. Ils rapportaient à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph beaucoup plus que tous les autres fils, car il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique splendide. Ses frères virent que leur père le préférait à eux tous. Alors ils le prirent en haine, et ils ne pouvaient plus lui parler aimablement. Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères, qui ne l'en détestèrent que davantage. Il leur dit, en effet, « Écoutez, je vous en prie, ce songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier des gerbes dans les champs. Soudain, ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout. Les vôtres se sont placés autour d'elle et se sont prosternés
devant elle.
Devant, devant la mienne. Ses frères lui dirent, prétendrais-tu devenir notre roi et nous gouverner? Et ils le détestèrent de plus belle à cause de ses songes et de ses propos. Il eut encore un autre rêve qu'il raconta également à ses frères. Voici, leur dit-il, j'ai encore fait un rêve. J'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Il raconta également ce rêve à son père, qui le réprimanda et lui dit, « Mais qu'as-tu rêvé là? T'imagines-tu que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner en terre devant toi ?» Ses frères étaient jaloux de lui, mais son père garda ce fait en mémoire. Les frères de Joseph allèrent faire paître les troupeaux de leur père dans la région de Sichem. Israël dit à Joseph, « Je veux t'envoyer trouver tes frères qui font paître les troupeaux à Sichem. » Joseph répondit, « Eh bien, j'y vais. » Son père lui dit, « Va voir comment se portent tes frères, et si tout se passe bien pour les troupeaux, tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya donc depuis la vallée d'Hébron, et Joseph se rendit à Sichem. Un homme l'y rencontra, alors qu'il errait dans la campagne, et lui demanda, « Que cherches-tu ? » « Je cherche mes frères, lui dit-il. Peux-tu me dire où ils font paître leurs troupeaux ?» « Ils sont partis d'ici, lui répondit l'homme, et je les ai entendus dire, allons vers Dothan. » Joseph partit donc à la recherche de ses frères et les trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin. Avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. « Voilà le maître rêveur qui arrive !» se dirent-ils les uns aux autres. « C'est le moment. Allez, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. » On verra bien alors ce qu'il advient de ses rêves. Lorsqu'il entendit cela, Ruben chercha à sauver Joseph. Il dit, « Ne portons pas atteinte à sa vie. Ne répandez pas le sang. Jetez-le dans cette citerne qui se trouve dans le désert, mais ne portez pas la main sur lui. » Il avait l'intention de le sauver pour le renvoyer à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique splendide. Ils se saisirent de lui et le jetèrent au fond de la citerne qui était vide. Il n'y avait pas d'eau dedans. Puis ils s'assirent pour manger. En regardant au loin, ils aperçurent une caravane d'Ismaélites venant de la région de Galaad et dont les chameaux étaient chargés de gomme, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher sa mort ? Vendons-le plutôt aux Ismaélites ! » Ne portons pas la main sur lui, car c'est notre frère, il est du même sang que nous. Ses frères furent d'accord. Et lorsque les marchands madianites passèrent, ils hissèrent Joseph hors de la citerne et le vendirent aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent. Ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Joseph, trop.
Merci Laetitia. Merci. C'est un peu long, mais c'est bien d'avoir toutes les données de l'histoire. Alors, l'histoire de Joseph, on voit dès le départ que Joseph avait un don. On perçoit, puisque il l'étale, hein, il en parle à ses frères, à toute la famille. Mais avec les événements de sa vie, il y a plein de choses qui vont le cacher, en fait, ce don-là. Ce qui peut arriver dans notre vie, on peut avoir des dons dès petits, hein, dès tout petits. Le Seigneur nous bénit avec des compétences et des dons. Et puis la vie qui se déroule fait que des fois on est tellement occupé à autre chose que ces dons-là, ils sont vraiment enfuis et on ne sait même plus qu'ils sont là. Parce que on est occupé à vivre. Voilà. Donc c'était le cas de Joseph. Donc dans sa famille, c'était une famille dysfonctionnelle, comme j'ai dit tout à l'heure, une famille où il se passait plein de choses qui n'auraient pas dû se passer, comme des fois ça se passe dans nos familles. Alors la première chose, c'est que Joseph était trop aimé. Est-ce qu'on peut trop aimer ses enfants? On peut mal les aimer, hein? Alors là, vraiment, c'était le cas. Hein. Il était vraiment, vraiment trop aimé, mal aimé. Et son père en faisait, il n'était même pas discret. Il lui faisait porter un manteau, mais alors de tous les couleurs, il paraît. Donc, quand il passait par là, on voyait que lui. Et tout ça, c'était une preuve de l'amour de son père, qui ne cachait pas que c'était le préféré. Alors, bien, ça peut arriver dans nos familles, et ça arrive parfois, que nous avons les mêmes parents, on est dans la même famille, mais on n'a pas du tout la même relation avec nos parents. Il se peut qu'il y en ait un qui est aimé plus qu'un autre, et ça apporte énormément de souffrance dans une vie de se savoir mal aimé ou moins aimé que ses frères et ses sœurs. Et à la limite, trop aimé, c'est pas mieux. Trop aimé, voilà, on voit où ça emmenait Joseph. Mais pour dire que les deux extrêmes, les dysfonctionnements apportent vraiment, vraiment des souffrances dans une famille. Après, Joseph était détesté. Et le mot n'est pas trop fort, parce que les frères voulaient le tuer. Mais vous rendez compte? Tuer les frères. Vos propres frères et sœurs qui désirent vous tuer. Ça ne devrait pas être facile à vivre. Ça devait être quelque chose... Quand Joseph était près de son père, ça devait aller. Mais quand le père était un peu plus loin, je pense qu'il devait trembler. Hein. Détester, c'est vraiment fort et c'est pas, le mot n'est pas Voilà, on n'est pas trop fort. Se sentir détesté, c'est terrible. Se sentir rejeté, pas aimé pour pas de raison particulière. Là, il y avait une raison, il était trop aimé. Mais des fois, on peut ne pas être aimé et on ne sait pas pourquoi. On est détesté, il y a des personnes qui nous détestent. Et c'est vraiment quelque chose de difficile à vivre. Ça arrive. Hein. Et donc Joseph devait vivre ça. D'un côté, il avait son père qui l'adorait. Et d'un autre côté, il avait tous ses frères et il n'y en avait pas qu'un. Hein. C'était une grande famille, il y avait beaucoup de frères. Et tous, ils le détestaient, plus ou moins, mais quand même. Quand même, on le détestait. Joseph avait un don, comme on l'a dit tout à l'heure. Le Seigneur lui avait donné un don dès son jeune âge. Il avait des rêves. Seulement, il ne savait pas quoi en faire. Il en parlait. Il parlait devant ses frères. Et il dit alors, ben oui, j'ai vu ci, j'ai fait cette rêve, voilà. Mais est-ce qu'il comprenait, Joseph, que c'était un don qui venait de Dieu? Je n'ai pas trop l'impression. Son père, qui était un croyant, lui, il n'avait pas compris non plus que c'était un don qui venait de Dieu. Alors, on peut être, en passant, on peut grandir dans une famille croyante ou appartenir à une famille croyante et avoir aussi des dysfonctionnements dans la famille. Là, le père de Joseph, c'était un croyant, son père, son grand-père étaient des grands croyants et on lit dans la Bible, on admire ces hommes. Mais quand on regarde de plus près, on se dit, ouah, quand même, c'est des gens vraiment qui dysfonctionnaient et des croyants. Donc les croyants, dans nos familles, il peut se passer des choses qui ne devraient pas se passer. Alors, ensuite, donc il ne savait pas quoi en faire de son don, et ça peut nous arriver aussi, des fois on a des dons, on a des capacités, on ne sait pas trop quoi en faire, à qui en parler, si c'est un don, si c'est juste une compétence, si c'est, voilà. Donc des fois on ne sait vraiment pas quoi en faire parce qu'on n'a pas pu en parler à une personne qui nous explique et qui nous conduit vers la compréhension de qu'est-ce que c'est un don pour Dieu. Donc, Éphésiens 2:6, pourquoi j'ai mis ça? Ah oui, c'est pour ça. Le dernier point, c'est que parfois, la famille peut, d'une façon intentionnelle ou pas, mettre en difficulté les enfants d'une façon très grave. Le père de Joseph avait envoyé Joseph voir les frères qui le détestaient. Joseph avait à peu près 3 jours de marche. C'était un petit jeune homme. Hein. Donc le père envoyait son fils 3 jours de marche dans la campagne tout seul pour aller voir ses frères qui le détestaient. Le père, s'il était un petit peu, s'il avait réfléchi, c'était vraiment de mettre son fils en difficulté, non? Vous ne trouvez pas? Vraiment, vraiment. Ça peut arriver dans nos familles. On peut être mis en difficulté nous-mêmes, ou mettre les autres en difficulté, jusqu'au point où ça peut être vraiment un handicap ou quelque chose qui nous marque à vie. Et je voulais parler de ce verset-là, « Honore ton père et ta mère », c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, « afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre ». Alors ce verset-là
on connaît en tant que croyant. Et quelquefois, c'est très mal expliqué, ce verset-là. Alors, honore ton père et ta mère ne veut pas dire accepte tout ce qu'ils vous font, même si ce n'est pas bien. Hein, c'est ton père et ta mère, alors tu dois honorer, tu dois dire que tout va bien. Hein, on met une couverture dessus et puis voilà. Surtout, on ne fait pas de commentaires, on ne les critique pas parce que c'est père et ta mère. Et si tu veux vivre heureux, de toute façon, hein, il faut les honorer. Alors, la signification de ce verset, ce n'est pas tout à fait ça. Honorer, en fait, c'est mettre en balance. Mettre en balance. Donc, honorer ton père et ta mère, c'est mettre en balance tout ce qu'ils ont pu faire pour nous, qu'ils n'ont pas fait pour nous, ce qu'ils ont mal fait, ce qu'ils ont bien fait, tout ce qu'ils ont pu faire, et mettre en balance, c'est de faire, du coup, vraiment, vraiment, le constat de ce qu'ils ont fait. Et c'est à partir du moment où on a un juste regard sur ce qu'ils ont fait dans nos vies, dans toutes les influences qu'ils ont pu avoir sur nous, qu'on peut être heureux et vivre longtemps, parce qu'on peut régler les choses avec eux. Hein? C'est une bonne chose quand les parents demandent pardon aux enfants s'ils ont mal fait quelque chose. Hein? Et ça fait partie de vivre longtemps sur la terre en paix. C'est d'avoir bien discerné ce que les parents ont fait avec nous, l'éducation qu'on a eue, tout ce qu'ils ont pu faire. Et du coup, on a un juste regard sur ce qu'ils nous ont donné, laissé et ce qu'ils nous ont fait vivre. Je voulais juste dire ça en passant. Voilà. Alors, dans l'histoire de Joseph, ce qu'on peut dire vraiment clairement, c'est qu'il avait été victime d'abus. Alors, il y a différents types d'abus. Donc, il peut y avoir des abus spirituels, des personnes qui veulent vous contrôler spirituellement, hein, ou par des prophéties, ou par des paroles qui vont vous faire prendre des décisions que vous ne voulez pas forcément prendre. Donc, les abus spirituels, il y a d'autres abus, j'attends que ça arrive. Des abus physiques. Donc, on a parlé tout à l'heure de femmes battues. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit. Heureusement que maintenant, on en parle de plus en plus. Et on peut dire aussi que Joseph était victime d'abus, de violence. De la part de ses frères. On peut aussi être victime d'abus psychologiques. La manipulation psychologique que certaines personnes, un genre d'emprise qu'ils ont sur nous, qui fait qu'on n'est pas libre et qu'on se sent vraiment, vraiment contrôlé par eux. Et puis l'abus sexuel, bien sûr. L'abus sexuel, je voulais dire un mot par rapport à ça. L'abus sexuel, on sait aujourd'hui qu'une femme sur quatre est abusée sexuellement. Et un garçon sur six. C'est vraiment pas quelque chose de rare. Vraiment. Et puis, abus d'autorité, des personnes qui ont de l'autorité, que ce soit des patrons, que ce soit n'importe qui a de l'autorité
ou dans l'entreprise, ou n'importe où, eh bien, l'abus d'autorité, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile à lutter contre. Hein? Mais vraiment, il y a aussi beaucoup d'abus d'autorité. Alors, les effets de l'abus, puisque Joseph a été abusé physiquement, psychologiquement aussi, il a vraiment vécu des choses difficiles de la part de ses frères. Et quel effet l'abus a sur la personne? Alors, j'en ai mis que quelques-uns, parce que la liste est très très longue, selon, mais j'en ai mis quelques-uns, et tous ces effets font que ça va nous handicaper pour servir Dieu. Puisque, en premier, il y a la mauvaise image de soi. On se voit vraiment pas comme on est vraiment. Parce qu'on a dit des choses sur nous, on a fait des choses sur nous. Donc, surtout quand on est petit, quand on a été petit, donc vraiment l'image de soi est détruite, défigurée. Ce qui fait que quand on veut servir Dieu, on porte cette image négative. On perd la confiance en soi, puisque notre image elle est dégradée. Donc, on n'a plus confiance en soi et on se sent pas capable, sans valeur. Donc, c'est quelque chose qui influence notre service pour Dieu. La peur des autres. Quand on a vécu quelque chose de négatif avec l'abus, on a peur des autres. Parce qu'on a eu des vécus qui étaient difficiles, donc du coup on a peur des autres de façon générale. Le mépris est la haine du corps. On finit par se détester notre corps. Et quelquefois on peut cacher son corps de manière différente, ou que ce soit les vêtements ou différentes choses. Et notre corps devient vraiment une prison. On déteste notre corps. Et ça aussi, c'est difficile de servir le Seigneur si on se déteste. Alors, la fausse culpabilité, on nous a fait croire qu'on est mauvais, qu'on est méchant, peut-être qu'on est moins que rien. Ce qui fait que on se sent coupable. Coupable à la place de la colère. Parce que normalement, quand on nous maltraite, quand on a vécu ces choses-là, on devrait se mettre en colère. Et c'est une très bonne chose de se mettre en colère contre l'abus. Mais comme on n'ose pas se mettre en colère, eh bien on se sent coupable. La solitude. On n'a pas envie d'être avec les autres quand on a vécu, quand on sent comme ça. La solitude. Donc, c'est difficile de servir le Seigneur quand on ne veut pas voir les autres, quand on ne veut pas aller vers les autres. On a un sentiment de trahison parce que souvent, les abus se passent avec des personnes qu'on connaît. Donc, en première place, c'est donc la famille, et c'est là où il y a le plus d'abus. Et le sentiment de trahison vient en nous parce que on nous a pas protégés. Les personnes qui auraient dû nous protéger, être à côté de nous, nous valoriser, eh bien, c'est eux qui nous ont fait du mal. Donc, on a un sentiment de trahison. On ne fait plus confiance à personne, du coup. Parce qu'on se sent tellement trahi par ceux que nous aimons. On a un problème avec l'autorité. Parce que quand on est dans l'abus, c'est souvent ou des gens qui sont responsables de nous, ou c'est des gens plus, âgés, c'est dans la famille, c'est les grands frères ou les oncles ou pères et mères, parce que les mères aussi peuvent abuser de leurs enfants, bien sûr. Donc, on a un problème avec l'autorité. On n'a pas confiance dans l'autorité, parce qu'on a été tellement déçus, tellement mal traités par l'autorité, qu'on ne fait plus confiance à l'autorité, à quelqu'un qui est responsable de quelque chose. On ne peut pas le voir, on ne sait pas pourquoi, mais si, c'est parce que on a perdu confiance dans tous ceux qui ont l'autorité. Ou c'est complètement le contraire, on devient dominatrice, parce que c'est des femmes, pour ne pas vivre la soumission. Parce que quand on est abusé, on est soumis, forcément. Quand on est abusé, c'est quelqu'un qui a sur nous un pouvoir. Donc, on est soumis. Donc, parfois, la réaction, c'est de dominer ou pas être soumis, justement. C'est le contraire d'avant, mais les deux arrivent. Et pour finir, alors la liste est beaucoup plus longue que ça, j'en ai pris juste. Le sentiment d'impuissance. Quand on est abusé, on a l'impression qu'on ne peut rien faire, qu'on ne peut pas réagir. Donc on a un sentiment d'impuissance. On n'arrive pas à prendre des décisions, on n'arrive pas à aller de l'avant, faire des choses parce qu'on se sent vraiment impuissant, parce qu'on a été dominé. Et puis la dépression, et ça c'est pas étonnant avec tout ce qui est venu avant. Donc très souvent la dépression c'est le résultat de l'abus. Donc là c'est un peu général de l'abus qui existe et donc, Joseph a été abusé physiquement, psychologiquement. Et ce qu'on voit, c'est que les frères étaient vraiment indifférents. Indifférents de sa souffrance. Ça, c'est quelque chose d'invraisemblable quand on réfléchit. Parce que, en fait, les frères, quand ils ont vu Joseph, ils ont voulu le tuer. Déjà, c'est énorme, déjà, c'est atroce. Mais quand ils ont mis Joseph dans la citerne, alors la citerne, c'était pas un petit truc là où on met de l'eau. La citerne, c'était grand. Souvent, il y avait de l'eau, c'était pour l'eau. Et profond. Il n'aurait pas pu sortir tout seul. Donc, il n'y avait pas d'eau. Là, ils l'ont mis. Ils l'ont jeté dedans. C'était profond. Et vous pouvez imaginer un jeune qui est jeté dans un citerne. Il devait crier, non? Il devait se demander qu'est-ce qui lui arrivait, que tous ses grands frères, en plus, il était le dernier. Tous ces grands frères-là, qui l'ont pris, il n'avait aucune chance de s'échapper. Et l'ont mis dans la citerne. Mais vraiment, il y avait une indifférence de ses frères. L'indifférence allait jusqu'à... Alors ça, c'est vraiment quelque chose de très choquant. C'est que Joseph était dans la citerne, il devait crier... Ils devaient pleurer, peut-être. Et qu'est-ce que faisaient ses frères? Ils étaient à côté. Ils ont pris le pique-nique que Joseph leur avait emmené. Et ils ont mangé. Ils se sont mis à table et ils ont mangé comme si de rien n'était. Alors, ils ont mangé comme si de rien n'était. Alors, c'est quelque chose de très choquant, mais Je me dis parfois que dans les familles, on peut être à côté de personnes qui souffrent, qui hurlent, qui ont peur, ou même qui sont dans un état, mais alors de, comment dire, j'ai plus le mot, mais il devait être vraiment dans un état terrible.
L'agonie.
Et je pense qu'il y a des familles où il y a des personnes, il y a des femmes qui sont dans l'agonie et qu'il y a des personnes à côté qui se mettent à table, qui mangent et qui vivent leur vie comme si de rien n'était. Et ça, c'est un scandale. Ça, c'est terrible. Et vous voyez, si on regarde bien de près cette histoire-là, mais c'est révoltant. C'est révoltant. Mais la haine était telle que les frères étaient capables d'être juste à côté et manger. Pendant que Joseph souffrait dans la citerne. Alors la citerne, pour Joseph, c'était un lieu fermé. Et il ne pouvait pas sortir, à moins que quelqu'un vienne l'aider. Je me dis aussi qu'il y a des femmes qui sont dans des citernes, qui sont en train de souffrir, et au moins que quelqu'un puisse aller lui donner la main pour la sortir, eh bien, elle n'en sortira pas. Et aussi, la citerne peut être physique, comme je viens de le dire, dans une citerne, enfermée et ne peut pas sortir. Mais ça peut être une citerne intérieure aussi. On se sent enfermé, dans silence. On n'ose pas parler à d'autres de cette souffrance qu'on a. On n'ose pas, on s'enferme. Et c'est comme une citerne, on ne sait pas comment on va s'en sortir de cette situation. Mais quelques versets plus loin, on lit « L'Éternel fut avec Joseph ». C'est un peu surprenant de lire ce verset après tout ce qu'on a lu. C'est un peu surprenant. On se dit « Mais attends, si on est croyant, eh bien, normalement, on a une belle vie, rien ne nous arrive. » oui. Eh bien, oui. On peut avoir des difficultés dans notre vie. Hein? On peut vivre des choses atroces. Mais on peut savoir que Dieu est avec nous. Qu'il ne nous a pas lâchés. Il ne nous a pas abandonnés, mais il est avec nous, comme avec Joseph. Alors Joseph ne comprenait rien. Et on lui aurait dit ça, je ne sais pas, il aurait dit, ah bon, bah, où ça? Avec tout ce qui m'arrive, c'est pas possible. Eh bien si, Dieu, l'Éternel, fut avec Joseph. Il pouvait se poser des questions. Je vous rappelle que c'était un enfant gâté quand même, hein? Avant c'était un enfant gâté, il avait tout ce qu'il voulait et au-delà de ce qu'il avait besoin. En fait, il n'était pas si méchant que ça, mais il était jeune, quoi, un jeune garçon. Il était victime. Il faut dire le mot, quand on vit des choses difficiles, hein, on est victime. Et Joseph était victime. Il devait avoir beaucoup de colère, je pense, à ce moment-là. Et il a mis un certain temps pour guérir. On n'a pas tous les détails, mais on perçoit dans le texte, qu'on ne va pas voir ce soir, mais qu'il a mis un certain temps pour guérir. Alors, on n'a pas toujours les réponses, hein, de pourquoi on vit des choses difficiles dans notre vie. Mais on peut être sûr que le Seigneur est avec nous et qu'il nous dira tout ça plus tard. Alors, dans des situations difficiles comme ça, c'est vrai, on peut être victime des autres. Mais aussi, voilà, on peut avoir une part. On peut en sortir. La situation peut changer. Et j'ai trouvé un texte de Brené Brown qui nous dit, alors c'est traduit de l'anglais, je pense qu'il y a des petits trucs qui ne vont pas, mais vous allez comprendre le sens. Quand nous nions nos histoires et nous dégageons des émotions fortes, ils ne s'en vont pas à la place et nous possèdent. Ils nous définissent. Notre travail n'est pas de nier l'histoire, notre histoire, mais de défier la fin, de se lever fort, de reconnaître notre histoire et de ruminer avec la vérité. C'est pas français, mais on comprend ce que ça veut dire. Hein? Jusqu'à ce que nous arrivions à un endroit où nous pensons,
oui,
c'est ce qui est arrivé, c'est ma vérité. Et je vais choisir comment cette histoire se termine. Donc on a notre part. On peut décider que la fin de l'histoire soit autre chose que le début. On peut lire dans Isaïe au sujet du Seigneur, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement. Ce qui veut dire, je suppose, ouvrir les portes. Hein? Alors ça, c'est une image de bazar. Le fil qui traîne partout. C'est un peu notre vie des fois. Il y a des moments de notre vie, on a l'impression que ça ressemble à ça. Des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des tâches, il y a des couleurs, il y a des fils. On ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Il n'y a pas de sens. Qu'est-ce qu'il y a? Et ce n'est pas quelque chose de facile à vivre quand on regarde notre vie comme ça. Mais on peut voir en fait que c'était l'envers d'une tapisserie. Et la tapisserie, quand elle est à l'endroit, on voit toutes les couleurs, ça a un sens, c'est une image, il y a plein de choses qui se passent dans cette tapisserie. Et c'est fait avec soin. Vous voyez bien, hein? Mais à l'envers, nous avons vu qu'il y avait plein de fils. Hein? Et on ne peut pas comprendre l'image de par l'envers. Mais quand on regarde l'endroit, on se dit que c'est quand même quelque chose de magnifique. Alors, nos dons, les dons que Dieu nous a donnés, ils peuvent être enfouis dans plein de choses, dans nos complexes, dans la peur, dans le sentiment qu'on ne vaut rien, l'estime de soi. Il y a plein de choses par-dessus et on ne voit pas les dons que Dieu nous a donnés. Je sais que ce n'est pas vrai pour tout le monde, mais c'est vrai pour quelques-unes. Alors, quand les dons sont enterrés comme ça, et on ne les trouve pas, on ne les voit pas, eh bien, vous savez, on peut les déterrer. on peut petit à petit enlever toutes ces choses qui sont par-dessus et qui nous empêchent de servir. Alors, j'aime bien la suite de l'histoire de Joseph, qu'on n'a pas lu, mais Joseph était vendu comme esclave. Déjà, c'est quelque chose de difficile à vivre. Quand on a vécu dans une famille aisée, riche même, gâtée, le dernier, mais pour moi, il était vendu comme esclave. Il avait toujours son don avec lui, mais il ne savait pas, c'était inutile son don là où il était, ça semblait. Mais qu'est-ce qu'il a fait en attendant de guérir, en attendant de comprendre sa vie et ce qui lui est arrivé? Vous savez ce qu'il a fait? Il a servi à l'endroit où il était comme il pouvait. Et vous savez comment? Eh bien, il gérait la maison. Alors là, je ne parle pas d'une femme là. Je parle de Joseph. Donc, là où il était, il a servi Dieu du mieux qu'il pouvait. Et nous aussi, peut-être que notre don n'est pas encore tout révélé, arrivé au point où on fait vraiment ce que le Seigneur a prévu pour nous, mais en attendant. On peut le servir là où on est et comme on peut. Et apparemment, il l'a fait vraiment bien parce que il voulait faire les choses pour Dieu. Et pour nous, c'est pareil. Les dons que nous avons, peut-être, on ne sait pas trop, on se dit « Oui, le Seigneur m'a appelé à ça, mais là où je suis, ce n'est pas possible, je ne peux rien faire. Comment ça se fait? Enfin, je ne peux pas mettre ça en pratique. » Eh bien, en attendant, on peut faire ce qu'il y a à faire, comme Joseph. Et c'est vrai qu'en attendant, ben, il avait peut-être besoin de tout ce temps-là pour guérir. Avant de gérer le pays, il a géré la maison. Et heureusement, parce que ça a travaillé son caractère. Il a appris à se soumettre. Il a appris à bien travailler. Et on l'avait remarqué très rapidement. Mais pendant ce temps-là, je crois que le Seigneur travaillait son cœur et le préparait pour ce qu'il avait à faire plus tard. Et bien pour nous aussi, peut-être qu'aujourd'hui, on ne fait pas tout ce qu'on aimerait faire. Mais on peut faire ce qu'on peut. Hein? C'est vrai qu'il y a des moments dans notre vie qui sont difficiles. Que ce soit la maladie, que ce soit des périodes où les autres ont manqué de respect envers nous, avec l'abus, que ce soit l'autorité, que ce soit physique, psychologique, etc. Et on a besoin de toute la grâce de Dieu quand on traverse ces moments-là. Et comme femme de cette église, je vous demande vraiment d'entourer toutes les femmes qui passent des moments difficiles. Parce qu'elles ont besoin de vos prières, de votre présence, pour qu'elles aussi puissent sortir de leur citerne. Et qu'ils puissent aussi servir Dieu. Donc, on peut être solidaire en tant que femme avec... Après tout, il n'y a personne qui a une famille parfaite. On a toutes nos histoires qui sont différentes. Hein? Que ça soit une famille où tout s'est bien passé, mais à l'extérieur, on a pu vivre des choses difficiles. On a été peut-être malade. Des choses, le deuil par exemple, qui est très très difficile à vivre, que ce soit un enfant ou un membre de famille. Et c'est des périodes de la vie qui sont extrêmement difficiles à vivre. Et bien vraiment, vraiment, ça serait important de notre part de les soutenir, de les aider, les accompagner dans la prière, mais aussi de nous tenir à côté d'elles pour qu'elles puissent vraiment sortir de ces citernes que les enferment et qu'elles puissent un jour mettre en pratique, qu'elles puissent aussi servir Dieu avec les dons qu'elles ont. Alors, dans la première partie, on a parlé des dons, la définition, ce que c'est, ce que c'est pas, etc. Et donc, la deuxième, c'était nos dons qui sont enfouis à cause de ce qu'on a pu vivre dans notre vie. Eh bien, voilà pour aujourd'hui. Et notre sœur Nathalie va nous donner, partager un témoignage.
Bonsoir à toutes. Donc je vais vous raconter mon expérience dans la citerne, parce que voilà, j'en ai vécu une. Donc il y a quelques années, les médecins ont diagnostiqué chez moi une leucémie, donc c'est un cancer du sang. Premier stade, donc leucémie chronique. Donc bien sûr, quand on vous annonce ça, le monde s'écroule, puisque j'avais deux enfants. C'est un peu la panique, puisqu'on se dit, ben, qu'est-ce qui va se passer? Et puis, on arrive à l'hôpital, ils nous font des examens, dont des examens très très douloureux, puisqu'ils vous percent dans l'os à ce niveau-là pour pouvoir prélever la moelle. Donc, au secours Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Et bien sûr, pendant la nuit, l'ennemi vient m'attaquer en me disant que je vais mourir et que mon mari va se remettre avec une autre femme et que mes enfants vont être dans les pensées. Hein, puisque, bien sûr, quand on est affaibli comme ça avec un choc, l'ennemi en profite pour nous mettre des pensées vraiment négatives. Donc là, il faut vraiment crier au Seigneur et dire, Seigneur, vraiment, là, il faut que tu viennes à mon secours. Et donc, j'avais ma Bible à l'église, à l'hôpital, et là, le Seigneur me donne un verset. Donc, c'est dans Jean 11, et c'est le verset, verset 25. Donc, c'est « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et quiconque vit, croit et en moi ne mourra jamais. » Donc, pour moi, c'était cette réponse que je ne mourrai pas. Donc, bien sûr, il y a eu un traitement mis en route qui a très bien stabilisé la maladie pendant quelques années. Mais ce n'était pas encore fini. Le Seigneur voulait encore m'emmener plus loin. Je me suis retrouvée enceinte alors que je n'avais pas le droit d'avoir de bébé. Donc, le professeur qui me suivait m'a dit, on va l'enlever. Donc, avec mon mari, on s'est regardé. On a dit, non, ce n'est pas possible. Nous, on croit en Dieu. On ne peut pas enlever la vie. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ils m'ont annoncé le pire, bien sûr, que j'avais fait une fausse couche. Qu'à 5 mois, si la maladie augmentait, puisqu'il a fallu arrêter le traitement, donc on allait être obligé d'enlever le bébé à 5 mois de grossesse. Je me disais, non Seigneur, c'est pas possible. Et puis à 7 mois, s'il était encore là, qu'on ferait une grossesse avancée, quoi, une césarienne. Et en fait, tout ça ne s'est pas produit. J'ai eu mon bébé à 8 mois et 3 semaines, puisque il était prévu d'être déclenché. Et avec ma maman, on a prié. On a dit, c'est pas possible, parce que c'est mieux que ce soit le bébé qui décide. Donc, on a prié avec ma maman pour que ce soit le bébé qui décide d'arriver. Donc, je vais rentrer à la maternité le samedi soir à 5 h. Et en fait, notre bébé a percé la poche des os à 5 h du matin. Donc, voilà, encore un clin d'œil de Dieu. Donc, voilà, notre petit loulou est arrivé. Bon, je vous cache pas que la grossesse a quand même été avec des inquiétudes. C'était pas une grossesse prévue, donc moi j'avais tout vendu, j'avais plus rien, donc je disais Seigneur, pas cool. J'étais pas trop décidée d'en avoir un troisième. Et j'ai dit, bon d'accord, Seigneur, n'importe comment, j'obéis, la vie est là. Et en fait, on a eu un beau petit garçon en pleine santé qu'on a appelé Emmanuel et qui est vraiment un don et un cadeau de Dieu. Voilà, la maladie, donc le traitement a été remis en route tout de suite. Mais la maladie a muté en leucémie aiguë. Donc là, c'était une autre étape, puisque je pouvais mourir. Et en plus, à l'époque, on vivait à Amiens, et les médecins n'étaient pas très, très au point. Ils étaient un petit peu à la ramasse, il y avait trop de monde malade. Et donc, ils n'ont même pas vu que la maladie avait muté. Donc, quand je les ai appelés en leur disant, bah, écoutez, est-ce que vous pouvez me donner le nom d'un hématologue sur Angers, puisque mon mari est muté, ils ont ouvert mon dossier, ils se sont rendus compte que la maladie avait muté parce que j'avais eu un examen avant l'été et qu'ils avaient rangé comme ça dans le dossier. Donc, quand je suis arrivée à Angers, donc moi je suis arrivée en ambulance, les enfants et mon mari est parti avec les déménageurs, donc il est arrivé ici tout seul et moi je suis arrivée à l'hôpital et bon, j'ai été bien soignée. Ce qu'on ne savait pas, c'est que Angers, au niveau hématologie, est référent européen au niveau des protocoles de leucémie. Donc, encore le clin d'œil de Dieu. Nous devions vendre notre maison, donc la maison a été vendue en un clin d'œil. Enfin, tout s'est bien organisé. Et quand je suis arrivée ici, donc là, ça a été une autre histoire, puisque les médecins amiens ne m'avaient pas prévenue du tout. Donc, j'arrivais dans le service stérile. Donc, quand je suis arrivée, ben, ils m'ont pris tous mes vêtements, ils m'ont pesé, ils m'ont mesuré, ils m'ont dit, bon ben voilà, on va vous conduire dans une chambre stérile, donc sous bulle. Donc, ma citerne, elle était là. Donc, sous chambre stérile, branchée, ben voilà, hein, il y avait un cathéter qui était installé, branché. Je ne pouvais plus rien décider, plus rien faire de moi-même. Donc là, on est obligé de s'abandonner complètement dans les mains de Dieu. Souvent, je pleurais, je disais, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? J'ai 3 enfants, Seigneur, ne me retire pas la vie, je veux voir mes enfants grandir. Et le Seigneur, c'est vrai qu'il a toujours été là pour me rassurer. Il y avait quand même, on a été beaucoup aidés, on a eu des familles chrétiennes qui nous ont beaucoup soutenus, qui ont beaucoup aidé mon mari. Et dans cette citerne, en fait, Jésus est venu dans ma bulle. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer parce que c'est surnaturel. Je pleurais, je disais, Seigneur, pourquoi ça m'arrive à moi? Et une paix est venue sur moi. C'est comme si j'étais enveloppée dans un cocon, dans du coton. C'était extraordinaire. Et là, j'ai su que vraiment, il n'allait rien m'arriver. Bon, il y a eu les forts traitements, donc la chimio, les rayons. Donc là, on en vient à la perte d'estime de soi, puisque quand mes copines me téléphonaient, je leur disais, bah, tu sais, ta Nat, c'est plus une Nathalie. Hein. Je lui dis, je passais sous un rouleau compresseur, donc je me sentais comme un ver de terre. Et souvent, quand je parlais de moi, je parlais souvent de cette façon, donc que j'étais moche et que j'étais un ver de terre, j'avais plus de cheveux, j'avais perdu 20 kilos. Et la première fois que je suis rentrée à la maison, on m'est apurée, mon mari me dit « je t'aime ». Donc ça a été extraordinaire. Et c'est vrai que dans son regard, en plus, c'était important aussi pour moi, puisque j'étais vraiment, vraiment pas belle. Et Dieu m'a appris et m'a fait découvrir l'amour qu'il avait pour moi aussi. Donc il m'a reconstruit petit à petit et il m'a fait découvrir cette nouvelle identité qu'il voulait me donner. Parce que quand on passe dans une citerne, Dieu se sert de cette citerne pour nous transformer. En fait, il ne veut plus qu'on soit la même qu'on était avant. Et bien avant la maladie, un dimanche matin, pendant la louange en Picardie, Amiens, la louange était tellement extraordinaire que je m'étais mise dans le fond de l'église et j'avais dit, Seigneur, change-moi, je ne veux plus jamais être pareil. Tellement la présence de Dieu était forte, je voulais vraiment que Dieu me change. Mais quand on prie comme ça, Dieu l'écoute. Mesdames, faites attention à vous. Dieu a entendu mon cri, parce que c'est un cri du cœur. Et de ce que j'étais, je ne suis plus aujourd'hui. Dieu m'a donné cette valeur, cette identité. Je sais qui je suis en Christ. Je sais pourquoi il a permis tout cela. Et il y a un verset, j'avais justement, par lequel il m'a parlé aussi. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Et j'ai compris après. Et je bénis Dieu de ce que j'ai vécu, parce que j'ai pu toucher l'intimité, j'ai pu toucher le cœur de Dieu, de mon Jésus. Parce que c'était mon Jésus pendant la maladie. Et c'est vrai que ça a été vraiment difficile parce que j'ai été séparée de mes enfants pendant des mois. Et moi qui suis très maman poule, très toujours à attention, fais attention, fais ceci, ceci. Pendant toute mon hospitalisation, ça a été vraiment un miracle de Dieu. Je ne me suis pas du tout inquiétée pour mes enfants. Dieu s'était occupé d'eux. Il avait placé des personnes pour s'occuper d'eux. Mon mari, c'est pareil, il avait une paix surnaturelle. Il aurait... Quand il témoigne, il a un autre témoignage parce qu'il rêve, il partage la paix qu'il a eue et l'assurance en Dieu que Dieu tenait tout. Et c'est vrai que voilà, les citernes sont difficiles à passer. Quand on est dedans, c'est difficile de voir l'avenir. Mais quand on place sa confiance en Dieu et quand vraiment on tourne les regards vers le Seigneur, vraiment c'est une force. Et aujourd'hui, je bénis Dieu de ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Soyez bénis. Que vraiment Dieu vous bénisse.
Merci.
La veille.
J'aimerais pour terminer la réunion, avant, j'aimerais bien qu'on puisse prier les unes pour les autres. Et tout simplement, je vais vous demander de vous donner la main. Ça ne vous gêne pas? Personne ne vous regarde.
On se donne la main en tant que femme. Alors, je ne sais pas qui c'est qui traverse, qui est dans la citerne ici. Il y en a sûrement.
Pourquoi tu as donné la main?
Oui, oui. J'ai été dans la citerne.